ho, 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 Merry Christmas.
J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti.
Allô?
Tu veux jouer avec moi?
Je te dévorerai le cœur!
Ça m'étonnerait.
Salut à tous, c'est Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Popcorn et Banjo s'inscrit dans le créneau Vive le cinéma de Aligre FM 93.1. À ma gauche, Charles Lemoine, superviseur musical et photographe. Salut Charles.
Salut Thomas.
Et moi-même, Thomas Révoy, réalisateur, journaliste et photographe. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes tous les deux cinéphiles et nous croyons autant dans le dématérialisé que dans le support physique. Dans cette émission, premier hors-série de Popcorn et Banjo, nous prendrons le temps de revenir sur la collection Angoisse, disponible chez Rimini Éditions. Côté musique, vous découvrirez Country Death Song, des violentes femmes, puis The Devil Went Down to Georgia, de The Charney Daniels Band. Popcorn et Banjo, la troisième, c'est sur Aligre FM 93.1, et c'est parti!
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors, la collection Angoisse, une collection assez extraordinaire qui nous vient de chez nos amis Rimini Éditions. Elle est construite à ce jour autour de 37 films, mais la grande famille continue de s'agrandir puisque les films sortent les uns après les autres. On a vu 24 de ces 37 films, que ce soit sur support physique ou grâce à tes différents abonnements. Merci aussi pour ça, Charles. Et il y a des films différents de tous les horizons. Des réalisateurs qui viennent du cinéma un peu plus classique, d'autres qui viennent de la Ozploitation, ce cinéma de genre qui nous vient d'Australie, totalement fou dans les années 70-80. Il y a des raretés comme One Dark Night, dont on parlera, des comédies burlesques, et etc, etc. Il y avait tellement de films qu'il a fallu évidemment tout scinder en thématiques. Nous avons donc choisi trois thématiques. La première, ce sera horreur psychologique et paranormale. La deuxième thématique, ce sera slasher, film de tueur et autres meurtres. Et la troisième, plutôt les atypiques, les films qu'on n'a pas réussi forcément à classer, mais sur lesquels il fallait absolument revenir. Et pour commencer, donc dans cette première catégorie, je crois que Charles, tu veux nous présenter le premier film de cette émission.
Effectivement, nous allons parler aujourd'hui de Audrey Rose, un film de Robert Wise. Alors avant de vous faire le pitch, on va un tout petit peu parler de Robert Wise, parce que c'est quand même certainement, je pense, tu seras d'accord avec moi Thomas, le réalisateur le plus important, enfin le plus connu de la collection, certainement.
Ouais, le plus réputé, le plus connu.
Qui a gagné quand même 4 Oscars, hein, meilleur réalisateur, meilleur film pour West Side Story. Et pour The Sound of Music, deux comédies musicales. Donc réalisateur de genre et des genres, j'ai envie de dire. Puisqu'il a fait quand même de l'horreur, il a fait du péplum, il a fait de la science-fiction. Science-fiction, le jour où la Terre s'arrêta, ouais. Qui est un film que j'adore. Et qui est considéré quand même comme un des premiers films, un des premiers grands films de SF ouais. Américain. Et il a aussi, entre autres, quand même monté Citizen Kane. Ah oui, je te sens impressionné, Thomas.
J'adore. Et il me semble qu'il a monté le deuxième aussi, Orson Welles.
Ah, je peux te le dire, le deuxième Citizen Kane. c'est énorme. Non, mais donc, énorme réalisateur de la collection.
Le Splendor des Amberson, pardon.
Mais non, exactement. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler d'Audrey Rose, qui est un de ses derniers films, hein, qui date de 77. J'avoue, je ne le connaissais pas avant la collection. Et donc, ce film va nous parler d'un couple dont la fille commence à souffrir de cauchemars assez terrifiants. Et ils sont approchés par un homme étrange, joué par Anthony Hopkins, qui prétend que leur fille est la réincarnation de sa propre fille. Audrey Rose, qui est mort tragiquement quelques années plus tôt. Thomas, qu'est-ce qui nous a étonné en fait dans ce film ?
Il y a plein de choses sur lesquelles on va prendre le temps de revenir. Moi, une des premières choses qui m'a marqué, c'est le personnage de Hopkins, qui est un personnage très étrange. Pendant toute la durée du film, on a du mal à comprendre s'il est malveillant, bienveillant. On a du mal à savoir si, pour une raison X ou Y, il veut faire du mal à cette famille qui les harcèle, en fait. Hein. Il attend la petite fille à la sortie de l'école. Il sonne chez eux quand le mari n'est pas là. Il essaye d'enrôler la mère pour passer du temps avec la fille. Quand la mère n'est pas là, il essaye de parler à la fille. Enfin, il est toujours dans un espèce de système de harcèlement, hein, de stalker. Et on ne sait jamais à quel point il est malveillant parce qu'il dit avoir les meilleures intentions du monde, et le fait est qu'il ne fait jamais de mal à cet enfant. Et puis, alors, sans spoiler, mais vraiment, le film débute, les premières images du film, c'est un accident de voiture. Et on comprend tout de suite que c'est un accident avec une catastrophe, puisqu'il y a des morts, y compris une petite fille. Et évidemment, moi, je me demande, quand ça coupe et qu'on arrive sur le personnage d'Anthony Hopkins, je me dis forcément, c'est le père de cette petite fille et il veut la venger. Et les gens qui conduisaient dans l'autre voiture sont la famille qui, aujourd'hui, est une famille riche new-yorkaise pour lesquelles tout va très bien. Et en fait, c'est sur cette idée-là que le film aussi est construit, en tout cas au début. Et donc, moi, c'est une des premières choses qui m'a marqué. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur ce film, nous donner un petit peu ton état à toi des lieux.
Je trouve ça tellement étonnant, un film qui va nous parler quand même de réincarnation, d'au-delà, mais on va dire positif, c'est-à-dire retrouver les êtres chers. C'est tellement particulier que moi, ça m'a personnellement touché. Et effectivement, comme tu disais, ce que j'aime beaucoup dans Audrey Rose, c'est cette espèce de film à tiroir. Je sais jamais ce qui va vraiment m'arriver, je sais jamais à quelle sauce je vais te manger.
Absolument, ouais. C'est un vrai drame familial sur fond de réincarnation. Et c'est là où il est bon, Robert Wise, c'est que en creux, au départ en tout cas, on se dit qu'on part sur une histoire d'horreur, de possession, et en fait, ça va glisser vers un drame familial. Et là, ça devient un film aussi d'atmosphère, un film hyper délicat aussi, quoi.
Le truc, c'est comme le film est construit vraiment pour glisser petit à petit vers ce... On va comprendre en tout cas qu'il y a peut-être pas... qui est une histoire en tout cas peut-être de non pas de possession mais de réincarnation, on attend le moment où ça va péter. On attend toujours ce moment où on sait bien que, je sais pas, la tête, comme dans l'exorciste, la tête va tourner, va y avoir du vomi, va y avoir des insultes, on sait pas. Là, il y a un truc, on sait que les fantômes, ils sont pas cool, tu vois.
Ouais.
Et comme la gamine, quand même, elle a des douleurs, alors dans ses cauchemars, elle a des douleurs quand même physiques aussi, pas des scarifications, mais des brûlures, etc., ouais, qui vont sur sa peau. On se dit à quel moment, en fait, c'est pas un démon, finalement, qui a peut-être pris possession d'elle.
Ouais, parce que la petite fille qui est morte dans l'accident de voiture et qui serait peut-être réincarnée dans cette autre petite fille qui vit sa vie, sa meilleure vie new-yorkaise, et ben cette première petite fille, dans son accident de voiture, elle est morte aussi brûlée. Et donc, le fantôme de cette fille arrive dans le corps de...
Ce fantôme ou pas, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que c'est... La réincarnation, c'est pas un fantôme. Tu vois, c'est là où je trouve le d'âme.
Ouais, c'est vrai. Et alors un passage que j'aime beaucoup dans ce film qui me permet de rebondir là-dessus, c'est le. Il y a toute une partie film de procès soudainement. C'est très étrange. Avec même d'ailleurs des images d'archives où on se retrouve à Benares, Varanasi en indien, qui est vraiment la ville où les Indiens viennent pour mourir. C'est une ville extraordinaire sur le Gange, où on vient tremper les corps des gens dans nos familles qui sont décédés, les tremper dans le Gange pour qu'ils atteignent le nirvana, enfin en tout cas les lieux spirituels dans lesquels ils croient. Et donc il y a même des plans étonnants de l'ordre du reportage et du documentaire de cette ville. Et en parallèle à tout ça, il y a un procès où on fait un procès à Anthony Hopkins parce qu'à un moment il va un petit peu loin. On va pas rentrer dans tout le film, mais il séquestre cette jeune fille. Et donc il se retrouve tout simplement au tribunal, en prison puis au tribunal, et il prépare sa défense. Et là, on a un montage alterné sur deux mondes qui s'affrontent, que je trouve extraordinaire. On a d'un côté des penseurs indiens, des philosophes, des sadhus, des gens qui viennent vraiment de l'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient, et qui défendent l'idée que la réincarnation est une possibilité. Et de l'autre, on va avoir, je vais faire un raccourci, mais on va avoir l'Occident avec ses lois, sa manière de penser les choses. Et là, il y a un espèce de clash énorme. Et ça me touche beaucoup aussi dans ce film. Tout d'un coup, cette espèce d'envie de Robert Wise de donner la parole aussi à ces gens-là de manière...
Moi, je pense que ça donne aussi un côté très, on va dire, concret au film.
Ouais.
Il est étonnamment, dans sa mise en scène en tout cas, peu fantastique.
Ouais.
Et peu marqué. C'est-à-dire que si on regarde le film, donc, je disais, daté de 77, quand même, on a eu quelques films d'horreur un peu avant. La photographie, l'image, est assez classique. Il n'y a pas d'envolée, il n'y a pas de, je sais pas, de rouge, de violet, de bleu, des choses bizarres. C'est vraiment, on est dans quelque chose de plus intime. Et je trouve que le procès place le film dans quelque chose de plus concret, de plus réaliste.
Ouais.
C'est que d'un coup, on te dit, non, là, on est dans une vraie affaire, On a un vrai problème où la gamine, elle a peut-être un problème psychologique, peut-être que c'est autre chose, mais par contre, on prend ça au sérieux. Et ça m'a vraiment... C'est tellement étonnant. Normalement, il y a toujours ce moment où on dit « Non, mais c'est bon, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. C'est des histoires de fantômes, c'est des histoires d'esprits, c'est des histoires... » Ça n'existe pas, tout ça. Même si les gens croient en Dieu ou ce que tu veux, ça n'existe pas, tu vois, c'est trop loin. Et là, d'un coup, on dit « Attendez, peut-être que c'est possible. » Et on va même en faire une affaire publique, quoi.
Absolument. Et ce que tu dis est rejoint par... Je trouve que Robert Wise, ça se sent que... Alors peut-être que c'est une commande, mais j'ai envie de dire que c'est pas une commande et que c'est un projet qu'il a envie de faire avec ses tripes. Et il y a quelque chose, ça se sent et ça va plus loin que la série B. Ça devient un grand film d'auteur, en fait, avec cette sensibilité.
Je crois que Robert Wise, il a de toute façon une carrière tellement dense que je suppose que même avec un scénario qui pouvait peut-être à la base être mineur, a pu le rendre par sa technicité, par son intelligence et aussi sa délicatesse de narration, a pu rendre quelque chose de...
Le step-up.
Ouais, exactement, de rendre ça, ouais, comme tu disais, film d'auteur, plus qu'une simple... plutôt qu'une série B classique.
Complètement. Et d'ailleurs, mention spéciale à Suzanne Swift, l'actrice principale du film, qui est étonnante, qui a une partition vraiment difficile à jouer. Il y a même une scène, à un moment, où on l'hypnotise, on lui demande de revenir dans le passé, à des strates de sa vie, où on lui demande même à un moment de revenir à un moment où elle n'est même pas encore née, et on la voit qui enchaîne toute cette scène avec une finesse et une qualité d'émotion et de ton toujours différent. Elle est toujours sur le fil, et franchement, elle est étonnante. Carrière rapide, pourtant, puisque son dernier rôle, c'est Halloween 6. Les connaisseurs, peut-être... ils penseront tout de suite. Je crois que c'est vraiment pas le Halloween qui a la meilleure réputation, mais en tout cas c'est un film de 95 et entre temps elle est créditée sur IMDb, en tout cas sur 12 crédits, et beaucoup sont des téléfilms ou des séries télé, donc c'est vraiment pas une actrice qui a explosé, bien que ce film là moi mais beaucoup enfin son jeu m'a vraiment beaucoup marqué.
Ouais, elle est très bien. Anthony Hopkins d'ailleurs est très bien aussi. Hein.
Ouais, ils sont tous excellents.
Franchement, dans le rôle du père, un peu... En termes de composition, c'est pas si évident de justement de jongler entre le... Est-ce qu'il est malsain ? Est-ce qu'il est taré ? Est-ce qu'il est les deux ? Ou est-ce que vraiment il est sincère ? Est-ce qu'il cherche vraiment quelque chose ? Et de jouer ce truc un peu bizarre, un peu ambivalent, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'il y a Anthony Hopkins d'un côté, mais aussi les parents de l'autre, qui réagissent forcément hyper mal... déjà la douleur de leur enfant, et puis de savoir que peut-être finalement leur enfant n'est pas complètement leur. Et ça, je trouve que comme sentiment, c'est tellement angoissant. Et d'avoir Anthony Hopkins qui, au début, ouais, il les suit, on ne sait pas trop pourquoi, et puis ensuite, il est gentil, on sait pas trop. Et il le fait très très bien, quoi. Il y a une espèce de justesse de jeu où justement, tu es toujours sur le fil et tu ne sais pas où... Où va Anthony Hopkins et tu ne sais pas où va la gamine, tu vois.
Ouais,
ça, c'est assez génial.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Dans le genre, les films qui nous baladent, on en a vu un deuxième qu'on a aussi beaucoup aimé. Dominique, c'est un film de 79. C'est un whodunit. Très simplement, une femme est retrouvée pendue chez elle. On comprend qu'elle s'est suicidée. Et pourtant, au début du film, on essaye de son mari et le staff, puisque c'est une femme très aisée qui a des gens de maison, je ne sais pas si je pourrais appeler ça comme ça, un butler,
un majordome.
Voilà, merci, qui s'occupe de la maison. Tout le monde a l'air de la pousser vers la folie, puisqu'elle elle se plaint de voix dans la maison, de présence de fantômes, et tout le monde lui dit que c'est dans sa tête. Et pourtant, ces voix existent bien. Elle finit par se suicider. Et évidemment, le mari est ravi de toucher l'héritage, sauf que petit à petit, il réalise que, en fait, ses voix et ses présences dans la maison sont peut-être là, et il se demande si sa femme n'est pas en train de le hanter. Et après, il se demande évidemment si est-ce qu'elle est vraiment morte, est-ce qu'elle n'est pas morte, et ça devient un grand film paranoïaque. Tu vas en parler ensuite. Petite présentation du réalisateur Michael Anderson, qui est un autre réalisateur important de la collection Angoisse de Cherimini, parce que c'est aussi un réalisateur de la vieille génération, si je peux dire ça comme ça, qui est mort à 98 ans il y a quelques années de ça, et qui a traversé 50 années, 60 années de métier. Réalisateur passionnant, qui a fait trois films importants, en tout cas 76, 77 et 79, ils se sont suivis. L'âge de cristal en 76, Orca en 77, hein, qui est espèce de réponse aux Dents de la Mer, espèce de croisement entre Moby Dick et les Dents de la Mer, qui est un film que je trouve fabuleusement beau, un petit peu débile par moment, mais extraordinaire quand même, avec un Richard Harris totalement habité. Et puis, deux ans après, un film qui s'enchaîne, Dominique, film de 79. Et là, tu vas peut-être nous parler un petit peu de la mise en scène, notamment.
Je trouve que, premièrement, Dominique est un très bon whodunit, comme tu dis si bien. c'est un très bon Agatha Christie, quoi, entre guillemets. Tu te fais balader dans tous les sens pendant tout le film. Et effectivement, là où le premier film Audrey Rose était classique dans sa mise en scène et un peu plus, on va dire, pas documentaire, mais un peu plus lisse, Dominique, lui, est très classique aussi, mais dans une forme un peu plus...
flamboyante.
Un peu plus flamboyante, effectivement, parce que là, le chef opérateur s'est fait tellement plaisir. Dès qu'il y a des scènes un peu horrifiques ou fantastiques, il y a des couleurs de partout, il y a du violet, il y a du bleu, il y a des trucs. Il y a des gens qui sont pendus, puis après ils sont plus pendus, et puis ça va dans tous les sens. Et tu fais, mais elle était morte, mais en fait elle n'est pas morte, mais en fait qu'est-ce qui se passe, quoi. Et il y a un truc comme ça, où au bout d'un moment, on te matrixe le cerveau, et tu te dis, ah non, mais en fait c'est lui le coupable. Et en fait tu fais, non, en fait ils sont tous les deux, c'est les deux là. En fait, et puis finalement tu fais, attends, putain, c'est pas possible, qui et qui. Et tu te fais, mais vraiment, avoir, c'est vraiment, moi j'ai pris ça... Je me crois toujours. En fait, je me crois toujours plus malin que le film.
Ouais, bien sûr.
Je me crois toujours plus malin. Je crois toujours savoir qui est qui. Voilà, exactement, tu vois. Et j'avoue, ça me fait un peu comme quand tu vois L'Arnaque, quoi. Effectivement, il y a un côté où tu te dis, ouais, non, mais c'est bon, Paul Newman, il fait ça. Et puis il le fait, mais juste le pas de côté pour qu'en fait, quand même, c'est toi qui te prends la peau de banane, quoi.
Ah, mais L'Arnaque, je me fais à chaque fois avoir. J'ai beau connaître le twist, je me dis toujours que le film est brillant. Enfin, c'est Bon, après, George Roy Hill, c'est aussi un monstre absolu. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de parler de ce réalisateur dont on parle pas assez. Mais en tout cas, pour revenir sur Dominique, je suis complètement d'accord avec toi. On est sur une plastique extraordinaire. Visuellement, c'est très, très, très solide. En tout cas, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus beau, quelque part, qu'Audrey Rose, mais c'est peut-être moins sensible. Mais ce qui est très fort, c'est que c'est... En fait, moi, ce que j'ai aimé, tu me dis ce que t'en penses, mais c'est que c'est un grand film d'angoisse, mais qui est construit sans jumpscare. Il n'y a pas de sang non plus. C'est vraiment de l'angoisse pure, avec cette question qui nous hante. Est-ce qu'elle est morte ? Est-ce qu'elle n'est pas morte ? Est-ce que le mec est fou ? Ou est-ce que les fantômes existent ? Et à chaque fois, tout est remis en question. Et ouais, il y a une espèce de chape d'angoisse très très lourde. C'est comme une mécanique de montre suisse. Hein. C'est un grand film d'artisan, mais qui vraiment, par moment, fait peur.
Moi, ça m'a vraiment rappelé le livre qui s'appelle maintenant « Ils étaient 10 ».
Ouais.
Et je me rappelle quand j'avais lu... Et que les mecs se font décimer petit à petit, et on sait pas trop qui est le tueur, et puis il y a des pendaisons et pareil, des machins. À un moment, t'es tellement angoissé, quand ils sont plus que deux, tu fais, mais attends, bah, c'est forcément les deux.
Ouais.
Et forcément, quand tu vois que c'est pas ça, et tu fais, oulala, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et t'as l'impression que le tueur, en fait, est derrière toi, qui fait, bah, surprise, en fait. Tu vois? Et dans Dominique, il y a vraiment ce truc un peu flippant, mais effectivement, c'est pas flippant parce que. Il y a des meurtres, il y a du sang, effectivement, il y a pas de... Effectivement, comme tu disais, il y a zéro jumpscare. C'est vraiment toute l'ambiance de ce grand manoir avec les larbins, enfin les larbins, les domestiques, qui sont là, qui sont un peu... Tu sais pas s'ils sont un peu médisants, tu sais pas s'ils sont avec eux, contre eux. Le mari qui a aussi une espèce de petit vicelard, en vrai, qui l'a poussé sa femme au suicide. Et donc tu sais pas trop non plus si en fait c'est finalement est-ce qu'il y a quelque chose qui le ronge lui finalement, est-ce que c'est vraiment que dans sa tête, est-ce que quelqu'un l'a dépassé, enfin on sait pas, et ça rend le film, ça te rend toi assez paranoïaque en fait.
Complètement, c'est un film qui pour les aficionados des films gothiques italiens ou les films de la Hammer, je pense qu'ils seront pas sans référence quand ils verront ce film-là. Ça leur rappellera pas mal de films qu'ils ont vus au niveau visuel, j'entends. Sans transition, Charles, tu vas nous présenter un film, One Dark Night.
Ah oui.
Film de 1982, et je te demande de le présenter parce que tu as détesté ce film-là, mais que moi j'aime beaucoup.
Alors désolé la collection Angoisse, mais alors toi t'as adoré ce film, mais on va en parler succinctement, hein, mais alors bon, commençons simplement. One Dark Night, Donc, c'est un film de Tom... Alors déjà, c'est impossible à prononcer, ça me saoule. Tom McLaughlin. Vraiment, McLaughlin, littéralement. Alors, j'ai fait mes devoirs aussi. Donc, il est connu pour avoir fait Vendredi 13, 6, qui est certainement le meilleur Vendredi 13, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, avec Thomas, qui est vraiment pas mal. Mais aussi, est-ce que tu sais, donc, Thomas... Qu'est-ce qu'il faisait avant ?
Surprends-moi, je n'ai aucune idée.
Eh bien, il était ancien mime et acteur. Et il a suivi les cours du mime Marceau à Paris.
Ah, j'adore.
Wow. Mais, non, mais le mec, sa carrière n'a aucun sens. Ah, du
ça m'intéresse beaucoup.
J'adore. Et du coup, le film dont on va parler aujourd'hui...
D'ailleurs, parenthèse, mais je trouve la nouvelle...
Tu étais mime aussi.
J'étais mime aussi, non ?
Du coup, à la radio, ça passe beaucoup moins bien.
Son Jason a un... C'est un peu le premier, en tout cas, arrivé au sixième, où on s'est quand même un peu ennuyé les cinq premiers, on va pas se mentir. Le sixième, tout d'un coup, apporte de l'humour et pas mal de gags visuels. Ceci expliquerait peut-être cela.
C'est vrai.
Pardon, je te laisse reprendre.
Non, mais pas du tout. De toute façon, on va en parler très vite de Von Dark Knight. Hein. Non, mais pour la faire simple, donc, le film suit trois adolescentes qui passent une nuit dans un mausolée comme défi d'initiation à un groupe scolaire. Et ils sont confrontés à des événements paranormaux terrifiants liés au corps d'un médium récemment décédé, capable de manipuler des forces surnaturelles. Alors Thomas, j'aimerais bien que tu m'expliques, parce qu'en vrai, sur le fond, on est d'accord pour dire que c'est pas très bon. Mais j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi t'as kiffé.
Alors déjà, c'est un film rare. Et moi, j'aime les films rares. Je m'explique. J'avais jamais entendu parler de ce film. Je connais un tout petit peu la carrière de Tommy McLaughlin. En fait, je la connais simplement pour la réalisation de son Jason et parce qu'il a aussi participé à la série Vendredi 13. Mais, j'ai pas vu ces épisodes d'ailleurs, j'ai pas vu cette série, mais elle a plutôt bonne réputation. Mais j'avais jamais entendu parler de ce premier long métrage. J'ai adoré l'ouverture. J'ai trouvé l'ouverture dingue. J'ai trouvé l'utilisation du ralenti, la mise en scène. Le film commence sur un plan au ralenti en plan large, avec une dizaine, il y en a peut-être 5 ou 6, mais camionnettes de coroners, comment on appelle ça en
français ? Médecins légistes.
De médecins, merci, de médecins légistes qui arrivent les uns après les autres, les uns derrière les autres, qui s'arrêtent devant la caméra, qui ouvrent leurs portes, et sur chaque porte qui s'ouvre, on voit qu'il y a marqué donc coroner, médecin légiste, et tous ces mecs sortent, et on comprend qu'il y a eu une scène de crime. Et tout ça est tourné dans un ralenti sublime. Il y a une espèce de patine qui est, d'ailleurs, je trouve, plus proche des années 70 que des années 80. Mais bon, peu importe, c'est du détail. Et j'ai trouvé ça tout de suite très, très prenant. Bon, ensuite, on va pas se mentir. Tout le milieu du film, à de rares exceptions près, tout de même, n'est pas très bien joué. Et pas très bien écrit. Et d'ailleurs, le gros problème de ce film,
ni c'est... Ni vraiment bien réalisé, on peut
c'est,
le dire.
Hein. Bah, en tout cas, c'est un cran en dessous. Mais c'est vrai que la direction d'acteur est assez médiocre. En revanche, la dernière partie, et par la dernière partie, j'entends vraiment quand cette jeune femme qui veut intégrer cette fraternité universitaire américaine et qui est donc bizutée, se retrouve à passer une nuit dans le mausolée qui est le crématorium de Los Angeles qu'on retrouve dans Fantasme, etc., qui est un bâtiment quand même assez dingue. Et tout d'un coup, on se retrouve dans un espèce de huis clos. Et là, j'ai trouvé cette dernière partie macabre à souhait, et j'aime le macabre. Et d'ailleurs, Tommy McLaughlin aime aussi beaucoup ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'avais jamais vu ça, en fait. Et en prenant en compte que c'est un premier long métrage... J'ai trouvé toute cette partie avec les cercueils qui se mettent à s'animer, à s'ouvrir au ralenti, avec ces corps dégueulasses, plein de verres qui tombent sur la meuf. Enfin, j'ai trouvé ça assez dingue. Et j'étais emporté, tout simplement. Et je dirais même que pour moi, One Dark Knight est un film à posséder dans sa collection.
Ah ouais, d'accord. Ah, très bien. Non, mais je pense qu'il faut mieux rester là-dessus tranquillement, parce que c'est vrai que j'ai tellement que du mal à en dire. J'aime pas faire ça.
Ok.
Donc, mais je suis vraiment, en fait, tout ce que t'as aimé.
Est-ce que, ouais.
C'est littéralement, pour moi, c'est 2 minutes de film en fait. Du coup, oui, il contrôle des corps de, enfin, des cadavres avec la tête et tout. C'est vraiment, il y a tout un truc. Effectivement, c'est pas des zombies.
Ouais, ça c'est une bonne idée.
C'est vraiment une bonne idée, mais. Vraiment, ça dure tellement 5 secondes.
C'est-à-dire qu'on n'est jamais face à des zombies, on est face à des corps qui sont simplement morts, mais ouais, que ouais. Le médium qui est aussi enterré dans ce mausolée a le pouvoir de les animer comme des pantins.
Mais en fait, le problème, c'est que le film doit durer 1h30, et en fait, c'est vraiment les 15 dernières minutes où vraiment ça commence à bouger.
C'est vrai.
Et en fait, il y a un vrai problème de rythme, quoi. C'est tellement long, l'introduction...
Ouais, ouais.
En fait, l'introduction dure 1h15, quoi. ce n'est pas possible.
C'est vrai qu'il y a des longueurs, et quelque part, il passe à côté d'un grand film, si jamais il avait réussi peut-être à étirer un peu plus son huis clos, et à mettre moins de personnages dans ce mausolée, à faire un huis clos avec simplement cette jeune femme face à tous ces cadavres.
Là, on est d'accord, c'est qu'il aurait pu faire peut-être un grand court-métrage.
Un très grand court-métrage. N'ayons pas peur des mots, voilà.
Et ça qui est beau, c'est d'aimer des séries B comme ça, quoi.
Mais je pense que, c'est Tarantino qui dit ça, et je trouve qu'il a assez raison. Il dit quand on aime le genre, parfois on aime le genre vraiment pour une scène, ouais, un moment, et résultat, on défend le film corps et âme, parce qu'il y a une scène qui nous a emmené loin. Et moi, One Dark Night, j'ai évidemment conscience des gros défauts de One Dark Night, surtout quand on le met en comparaison aux deux films précédents qui, pour le coup, vraiment n'ont pas ce problème d'écriture. Ils sont extrêmement bien écrits. Et One Dark Night, c'est vrai que ça pêche beaucoup au niveau de la direction d'acteur et de l'écriture. Mais il y a cette ouverture et cette dernière partie qui, moi, m'a vraiment emmené loin, et pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Enfin bon, tout ça va nous permettre, Charles, de te lancer, parce que toi et moi, on a fait pas mal de road trip aux États-Unis, on a pas mal couvert du territoire, comme on aime dire. Et je me souviens qu'un jour, tu me racontais cette histoire assez particulière, et je crois que tu voulais la partager aujourd'hui. Et je te laisse à toi le micro pour
parler de ça. Bah oui, bah écoute, Thomas, c'était il y a longtemps, c'était avant même qu'on voyage ensemble. J'avais même pas 20 ans. Et je faisais du camping aux USA, et j'aimais bien me balader un peu la nuit. Dès que j'écoutais du son, j'allais voir les gens qui jouaient. Et un jour, j'entends un petit vieux qui fait du banjo, je me mets à côté, je commence à baragouiner avec lui, je m'assois, et il commence à me papoter un peu, et il me dit, avec son accent du Kentucky, là, c'était vraiment imbitable, il me dit, mais tu connais un peu la région et tout? Et je dis non, il fait, bah attends, assis. Il a dit vraiment, accroche-toi un peu. Et là, je te jure, il commence à jouer du banjo et il me dit, bah tu vois, là, il y a longtemps, il y a une ferme qui était isolée. Et il y avait un fermier qui était un homme simple et qui vivait avec sa fille dans une petite ferme. Elle était son petit trésor, et il vivait sa vie. Mais sauf que la terre mourait, les récoltes ne poussaient plus. Et un soir, il l'a réveillé doucement. Main dans la main, ils ont traversé la cour de la ferme, le champ, et ils sont allés près d'un puits. Et là, le père lui a dit, ferme les yeux et fais un vœu. Et la petite fille, elle a été comme ça, elle a fermé les yeux et murmure son vœu. Et le père, lui, la prend dans ses bras et lui fait un câlin. Et puis, il se penche et il la laisse tomber dans l'obscurité du puits. Et depuis ce jour, on entend encore les cris de la fillette tomber. Alors là, je vais te dire, quand il m'a dit ça, j'ai un peu flippé, tu vois. Là, je vais te dire, j'étais là, oh putain. Et j'ai dit, le père dans l'histoire? Et il m'a dit, le père, il s'est pendu. Et là, il commence à se déboutonner le bouton, comme ça. Et il monte sa gorge. Et là, rien du tout, il avait juste trop chaud autour du feu. Il m'a dit, par contre, je vais te faire une super chanson. Tu vas voir, ça parle exactement de cette histoire.
Never knew still waters, nothing to eat, that God saves. Kiss your mother goodnight and remember that God saves. I led her to a hole, a deep black well. I said, make a wish, make sure and not tell. And close your eyes, dear, and count to seven. You know your papa loves you, good children go to heaven. You know your papa loves you, good children go to heaven. I gave her a shove. I pushed with all my might. I pushed with all my love. I threw my child into a bottomless pit. Screaming as she fell, but I never heard her hit. She was screaming as she fell, but I never heard her hit. Speak to me of lovers with a broken heart. You wanna know what will really tear you apart? I'm going out to the barn with a never stopping pain. I'm going out to the barn to hang myself in shame.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors, en parlant de tueurs, eh bien, nous allons vous faire la présentation de cette deuxième catégorie, qui est donc tueurs, slashers et autres meurtres. Et nous allons tout de suite présenter Terreur sur la ville, qui est réalisé par Charles B. Pierce, qui date de 76. C'est un film d'horreur semi-documentaire inspiré d'événements réels survenus à Texarkana en 46. Il retrace l'histoire d'un mystérieux tueur masqué surnommé le Phantom Killer, qui terrorise une petite ville avec une série de meurtres brutaux. Et la police locale et un détective, même un Texas Ranger, vont tenter de l'arrêter. Thomas, toi, c'est un film qui t'a tout de suite marqué. Première impression...
J'ai adoré.
Ouais, tout simplement. Moi aussi, en fait. C'est vraiment petit chouchou. Hein.
Ouais. J'ai adoré l'atmosphère. J'ai adoré aussi me retrouver au Texarkana dans les années 40. Hein, tu connais notre passion commune pour ces villes un peu perdues du centre des États-Unis. L'atmosphère est assez extraordinaire, étonnante. La DA est très, très réussie. Alors bon, c'est un film de... On l'a mis dans tueur et slasher. Évidemment, c'est pas vraiment un slasher. Hein, et tous les fans du milieu du slasher, je pense, seraient retournés à l'idée que ce soit mis dans un slasher. Donc on a mis tueur et moi, je rajouterais psycho-killer movie. Enfin, c'est plein de choses. Ce qui est sûr, c'est que ça renvoie à Zodiac.
Ah oui.
En fait, il faudrait peut-être mettre les choses dans l'ordre. Zodiac renvoie à Terreur sur la ville, hein, puisque Zodiac de Fincher date de 2007. Et c'est, enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute sur le fait que David Fincher a vu ce film.
Bah, c'est, pour moi, c'est une certitude, parce que franchement, c'est pas copier-coller, bien sûr, mais il y a de telles ressemblances.
Ouais, exactement. Notamment dans la manière dont le tueur est traité. Ça, je pense que toi, tu voudras peut-être revenir dessus. En tout cas, ce que j'ai aimé, c'est que la mise en scène est en décalage total avec le budget. C'est une petite série B sur le papier, mais il y a une vraie plastique de série A. Il y a un sens du suspense qui est très réussi. On dirait un film... On dirait un A-list directors, comme il dit, hein, vraiment un réalisateur de série A qui, tout d'un coup, se retrouve à faire son film. Il y a un énorme sens du suspense et de la mise en scène. Et bien sûr, ça c'est moi, mais j'aime beaucoup Ben Johnson. J'aime en fait énormément quand ce qu'on appelle les character actors, ces acteurs de second plan, hein, ces seconds rôles très forts, très importants qu'il y a dans tout le cinéma américain, et soudainement, quand dans les plus petites séries B, ils se retrouvent avec des premiers rôles, ou en tout cas dans les 2-3 premiers rôles vraiment du film. J'adore ce qu'ils peuvent incarner à l'écran, parce que ce sont souvent des gueules qu'on relaie au second plan, ou qui ont des rôles d'appui très importants, mais qui ne sont pas souvent au premier rôle. Et là, on a un Ben Johnson extraordinaire, avec toute son expérience, sa gueule, sa présence physique, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime tant ce film. Voilà, à toi la parole. Je sais pas ce que t'en penses, ce que t'as envie de dire dessus. Sens-toi libre de t'exprimer.
Eh bien, écoute, moi, ce que j'ai adoré vraiment dans ce film, mais un peu, je pense que, de toute façon, ça fait partie, je crois, des films qu'on a le plus aimé. Et moi, je les mets, comme toi, je mets ça au même niveau que Dominique ou que Audrey Rose.
Bien qu'il n'ait rien à voir, c'est ça qui est intéressant dans la collection Angoisse.
Pardon. Ah bah de toute façon, non, mais la collection Angoisse, on va pas se mentir, c'est un joyeux bordel. Et c'est ça qui est génial. Moi, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais il y a un plaisir de vidéoclub là-dedans que je trouve assez régressif et très cool. Mais là, pour ce film-là, il faut bien avouer qu'il y a une... En fait, c'est exactement... Comme regarder, alors j'ai cette impression-là, tu me diras ce que tu en penses, Thomas, mais j'ai l'impression de voir une espèce de massacre à la tronçonneuse, mais version policier. Dans le sens où Massacre à la tronçonneuse a quelque chose de poisseux, de sale, et un peu documentaire quand même. Il y a vraiment ce truc-là, je trouve, dans Massacre.
Tu parles du premier film de 1974, évidemment.
Ah ben bien sûr. Même si celui de Nispel, en vrai, commence comme une archive de la police, d'ailleurs. Mais oui, complètement. Et je trouve que ce film-là a vraiment ce côté aussi documentaire. D'ailleurs, dès le début du film, ils disent « histoire vraie, etc. On a juste changé les noms. » Bon, bien sûr, c'est un peu du mytho, tout ça, mais ça te met dans l'ambiance. Et vraiment, il y a ce côté vraiment documentaire. Effectivement, c'est pas un slasher, mais c'est le début de ce que sera un slasher, c'est-à-dire un mec masqué qui tue des gens. Donc il y a quand même ce côté presque un poil en avance, je dirais, sur son temps. Et le côté fincherisant, en fait, je trouve le film très moderne, en fait, je crois. Ouais. Et ça m'a vraiment perturbé,
Ouais,
parce que il y a en même temps ce côté donc film policier, film d'enquête, ok. Il y a un côté documentaire, mais il y a aussi on voit les meurtres qui sont perpétrés dans le film sont comme Fincher. C'est vraiment méthodique,
ouais, c'est
presque, c'est froid. C'est des plans parfois un peu larges. On voit juste quelqu'un se faire étouffer pendant je sais pas combien de temps. Pour ces films de cette époque-là, j'ai rarement vu ça en fait.
C'est
tout simplement.
Réaliste.
Vraiment, je trouve ça tellement étonnant.
Et il y a quelque chose que j'aime bien dire, qu'on disait tous les deux d'ailleurs, en revoyant un petit peu le panel de films qu'on a traversé pour préparer cette émission, donc on a donc vu 24, on avait un peu ce sentiment, en tout cas c'est un sentiment personnel qui m'a traversé, presque de regarder des épisodes des Contes de la Crypte, ces petites histoires malaisantes, agressives, violentes, cyniques, drôles, qui s'enchaînent comme ça les unes après les autres, et c'est ça aussi qui permet de faire ce corpus. Et c'est toi qui me disais ça, et je trouve ça joli. Tu me disais, Thomas, toi et moi, on aime les films de potes devant lesquels on peut papoter, les films devant lesquels on peut rigoler, commenter, et il y en a pas mal dans cette collection aussi. Mais là, impossible. On est pris complètement par l'histoire.
Il y a certains films où, par exemple, One Dark Night, où en fait, par exemple, je peux insulter le film pendant 2 heures et ça fait partie du truc, quoi. Ça reste marrant, on se vanne, on se fait « comment tu peux aimer ça ?» Ou alors on se marre. On se marre parfois, en fait, c'est ça le truc, c'est que parfois on se marre un peu contre le film. On n'est pas avec le film, on n'est pas dans le truc, tu vois. Et il y a des films comme ça où on se marre, machin, et il y a d'autres, comme tu dis, ça nous calme.
Ouais, exactement.
Et celui-là, il nous a rincé, quoi.
Ce qui me fait permet d'avoir une transition extraordinaire. J'ai envie de dire, Terreur sur la ville nous a calmés, contrairement à Slumber Party Massacre, film de 1982, catastrophique, hein. C'est un peu mon One Dark Night à moi, toi tu l'as beaucoup aimé, moi j'ai trouvé ça mais vraiment sans intérêt. Comment vous le présentez très rapidement, c'est une bande de filles à l'université américaine qui se retrouvent traquées par un tueur, donc slasher assez basique, avec ce petit... ce petit moment de folie qui fait qu'il n'a ni un couteau, ni une hache, ni une tronçonneuse, mais une perceuse comme arme avec lesquelles il fomente et tue ses filles les unes après les autres, bah, qui ensuite vont essayer de se défendre. Voilà, c'est vraiment un slasher sans aucune autre ambition, mais en plus de ne pas vraiment avoir d'ambition formelle ou narrative, c'est simplement très mauvais. Mais bon, voilà, je sais que Charles, toi, il y a des choses que tu as appréciées, donc à toi la parole, dis-nous un peu ce que tu en gardes.
Regardez-moi ce gros ouin-ouin qui aime One Dark Night et qui aime pas mon petit Slumber Party Massacre. Ben non, moi, c'est là où j'ai pris un vrai plaisir à mater ce film, déjà parce que j'ai trouvé vraiment drôle. Moi, il y a des séquences qui m'ont vraiment fait marrer, mais c'est fait exprès, ça on en parlera plus tard, mais vraiment il y a des séquences d'humour noir, du macabre, qui marchent extrêmement bien. C'est quand même réalisé par une femme.
Ouais, ça c'est important.
Amy Holden Jones, et d'ailleurs c'est une série de films qui sera réalisée que par des femmes. Hein. Et à la base, ça se veut une parodie de slasher. Malheureusement, je dois bien avouer, j'ai juste pris ça pour un film un peu foiré, un peu foireux, parfois, et je pense que c'est ce que tu as ressenti.
Ouais.
Malgré tout, moi, les scènes qui sont drôles le sont vraiment, et on sent qu'elle a vraiment un pas de côté et un tout petit regard sur le genre. Après, bien sûr, il y a des choses de son époque, c'est-à-dire qu'il y a du Mel Gaze, il y a quand même un plan. Avec Thomas Ossarian, on s'est dit, ouais, d'accord, c'est un plan douche où vraiment ça reste sur les fesses d'une meuf pendant 30 secondes, quoi.
Ouais. Et tu dis, c'est peut-être... Ouais, un peu moins, peut-être.
Non, mais ressenti, tu fais genre, mais on peut passer à autre chose, quoi, ou qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même une vraie générosité dans le film, mais toi, t'es vraiment... du tout fait kiffer. Il faut bien avouer que, tu vas peut-être nous en parler un petit peu, mais c'est vrai que le gros bémol, et c'est un vrai bémol pour ce genre de film, c'est le tueur, quoi.
Bah ouais, alors, et aussi, justement, ce dont tu parlais, c'est-à-dire que c'est une parodie, ça, moi, je le savais pas, et je crois toi non plus, on l'a découvert après, et en fin de compte, il n'y a pas de recul, c'est-à-dire, elles parodient, elles font exactement la même chose, mais elles inversent pas le regard, j'aurais aimé voir plus de mecs, peut-être à poil, et qu'en fait, elles inversent le regard, et que nous, spectateurs hommes, on se retrouve confrontés à quelque chose dont on a moins l'habitude, et en fait, bon, voilà, c'est vraiment pas politisé comme message, et bon, je trouve ça un peu dommage, mais peu importe. Le vrai gros problème du film, c'est le boogeyman, qui n'a aucune personnalité. Au contraire du deuxième film, on a quand même vu le deuxième, Étoile Remake, film de 87, qui s'appelle sobrement Slumber Party Massacre 2, et qui n'est pas très bon non plus. Mais là, pour le coup, on a un vrai boogeyman incarné, très marrant, plus intéressant en tant que personnage.
Ouais, moi, personnellement, j'ai moins aimé quand même le 2. Ouais. Mais Thomas, je crois que c'est à ton tour de nous présenter une petite histoire d'horreur.
Ben moi, je vais vous parler d'une histoire qui est typiquement américaine. Une de ces histoires qu'on raconte aussi, un peu comme la tienne, à la nuit tombée, en cercle au coin du feu. Un peu comme l'ouverture de The Fog, de John Carpenter, film extraordinaire au passage. Et c'est exactement comme ça qu'on me l'a raconté. J'étais dans un motel le soir, sous les étoiles, perdu au milieu des États-Unis. Et cette histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est celle du diable. Et le diable, il voulait récupérer une âme pour son compte personnel, une de plus. Il était complètement perdu dans l'état de Géorgie. Et en se baladant, en cherchant qui chasser, il est tombé sur un jeune joueur de violon qui s'est empressé d'aborder. « Salut gamin, t'as l'air de bien manier ton archet, est-ce que t'aurais pas envie de faire un petit pari avec le diable ?» Et le diable, il a joué franc jeu. Il lui a dit « Je te parie un violon en or contre ton âme, que je joue mieux que toi du violon. » Évidemment, notre petit bonhomme de Géorgie, il s'est dit qu'il pouvait gagner beaucoup, beaucoup d'argent, et il s'est empressé d'accepter le pari. Down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what, I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too, and if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you
Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, you're gonna regret, cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul. Opened up his case and he said, I'll start this show. And fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this. The devil finished, Johnny said, well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, does your dog bite? No child, no. The devil bowed his head because he knew that he'd been beat. And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best as ever been. He played, fire on the mountain, run, boys, run. Devil's in the house of the rising sun. A chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, where you don't fight, no child, no.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Nous allons tout de suite et très rapidement faire notre troisième thème, les atypiques. Et nous allons tout de suite commencer avec Les Traqués de l'an 2000, un film de Brian Trenchard-Smith datant de 82. L'histoire est assez simple. Ça se déroule dans un futur autoritaire où des prisonniers politiques sont envoyés dans un camp pour subir une réhabilitation. Mais ce camp a une règle un peu particulière. Les riches et puissants organisent des chasses à l'homme pour traquer les détenus comme du gibier. Et là, on va y trouver du maton sadique pervers, une chasseuse un peu coquine avec ses proies, et un monstre de foire littéralement utilisé comme arme humaine. Mais Thomas, est-ce que tu veux, t'as envie de nous parler un petit peu de ce réalisateur d'abord ?
Moi, j'ai une passion, Brian Trenchard-Smith. Trenchard-Smith, à qui Tarantino avait dédié la première de Kill Bill, grand cinéaste, chef de file de la Hostplotation. Ce chaînon de films entre 70 et 80 de films de genre qui, pour profiter d'un rabattement fiscal, les producteurs australiens se sont mis à produire à la chaîne des films de genre qui allaient dans tous les sens. Et Trenchard-Smith en a fait sa carrière. C'est un grand artisan, c'est quelqu'un qui, malgré parfois des scénarios assez mauvais, arrive toujours à faire des films de grande qualité visuelle et dans son sens de la narration visuelle. Et parfois, au milieu de tout ça, il y a quelques grands films. Les Traqués de l'an 2000, c'est un peu un des films du haut du panier. C'est un film orwellien. On va dire, Trenchard-Smith n'est pas un cinéaste politicien, hein, mais parfois, ces films comportent quelques scènes politiques. Et clairement, Les Traqués de l'an 2000 en fait partie. Un film avec des lesbiennes cannibales et des flèches explosives. Un film qui est généreux et qui mélange plein de genres. Je ne sais pas si tu veux rebondir. Je sais notamment qu'il y a une scène qui t'a complètement retourné.
J'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film. C'est vraiment un gros kiff. Et pour une simple bonne raison. Alors bon, il y a à côté anticipation, effectivement, c'est un film fait avec un peu de briquet de broc, mais qui marche hyper bien, qui est, comme tu l'as dit, pour moi, c'est le haut du panier aussi, on avait hyper envie d'en parler. Et on va être honnête, pour moi, en fait, ce que j'aime, c'est la générosité du film. Ouais. Il y a des idées à, peut-être pas à chaque plan, mais en fait, à chaque nouvelle séquence, le mec, il te pond un truc qui sort de nulle part. Et c'est un kiff absolu. Et effectivement, ça spoil sans spoiler, hein, vous allez voir, parce que vous serez quand même surpris de...
Ouais, ouais.
Il y a un vrai plaisir. Mais effectivement, il y a un des grands bourgeois, là, il a littéralement une bête de foire comme arme. Il est hyper fier de ça. Et en fait, c'est une espèce de loup-garou. Et je vous jure, quand d'un coup, tu vois un mec au fusil à pompe, un mec avec des fléchettes, et un autre, il a un chien humain, un humain déguisé en yinche, ça fait bizarre. Hein.
Et parce vraiment... que c'est un peu comme les chasses du comte Zaroff.
Ah oui, exactement.
Je t'explique que c'est des milliardaires qui chassent des gens de la prison,
bah ouais,
et on présente leurs armes.
Et voilà, non, mais c'est tellement drôle. Et vraiment, il y a plein d'idées comme ça, ouais, tout ouais. le temps. Là, voilà, ça, c'est le parfait film entre potes, qui est bien foutu, bien fait, plutôt bien réalisé. Enfin, vraiment, en fait, il est tellement bien pour le petit budget qu'il a, que c'est un vrai plaisir à regarder, quoi.
Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord.
Et mais un peu comme le deuxième film aussi, que moi j'ai adoré, et tu vas nous faire la présentation tout de suite, mais qui est vraiment pareil, je trouve super, superbement atypique.
L'autoroute de l'enfer, qui est un film de 91 et qui est un autre coup de cœur commun. Hein. Voilà, c'est un film bon, qui reprend le mythe d'Orphée. Cet homme qui part à la recherche de sa petite amie qui est en enfer et qui va essayer de la ramener sur Terre. C'est un film avec un boogeyman au charisme extraordinaire, très très intéressant. C'est un film que j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a très peu de CGI. Je pense que quasiment tout est en un effet pratique. Avec le boogeyman, il a par exemple des objets étonnants avec lui. Ses menottes, c'est des mains coupées reliées par une chaîne. Et donc, en fait, quand on te passe les menottes, ce sont ses mains qui viennent t'attraper au niveau des poignets. Donc, il y a toute cette espèce de bestiaire visuel très très amusant sur le milieu de l'enfer. Il y a évidemment Ben Stiller dans un rôle très comique. Il y a son père aussi, c'est toi qui m'as dit que c'était son père.
Un de ses plus grands rôles, je pense, on peut le dire. Oui, il y a son daron aussi qui est là, et Ben Stiller joue à la fois un cuistot routier, et en même temps il joue Gengis Khan, qui joue avec Cléopâtre et Hitler.
Au poker,
ouais.
Et
ouais.
Dans un
truc tenu par John Gotti, un truc comme ça, un mafieux.
et toi, tu me disais que c'est un film... Bon, déjà, tu l'as beaucoup aimé aujourd'hui, dans ton âge sage, mais tu me disais aussi que c'est un film que tu aurais adoré avoir découvert à 14 ans.
Ah bah, de toute façon, c'est un film tellement... C'est un film très clairement... Alors, je sais pas si... Très clairement burtonien. Ça, pour moi, c'est comme Beetlejuice, c'est comme ces films-là. C'est en même temps des effets pratiques, comme tu disais. C'est vraiment, tu sens qu'il y a un truc fait main. Et en même temps, c'est un peu... Je pense que tu peux un peu flipper quand t'es gamin. Et en même temps, c'est assez tranquille. Et surtout, il y a tellement d'humour dedans. Ils font des jeux de mots sans arrêt. Par exemple, il y a « L'enfer était pavé de bonnes intentions ». Et littéralement, ce sont des gens qui sautent dans une benne et qui se font broyer. Ils se transforment en petits pavés pour faire l'enfer, quoi. Et c'est que...
Tout ça sous les yeux de... Andy Warhol.
Ah oui, Andy Warhol, en fait, il y a plein d'Andy Warhol qui sont en fait les...
Qui supervisent la construction de cette autoroute.
En fait, qui sont les ouvriers. Andy Warhol, en fait, c'est Andy Warhol décuplé, qui sont que des ouvriers. Effectivement, le film, il est une drôlerie de... Vraiment, si vous aimez Burton, en fait, vous aimerez forcément ce film, pour moi.
Avec un côté un peu jeu vidéo, et on se disait que c'était étonnant qu'il n'ait pas trouvé son public. En tout cas, voilà, c'est un film qui est très intelligent dans sa confection, et avec une volonté assumée aussi de faire de la comédie. Et cette fois-ci, comme on l'expliquait avant, on ne rit pas malgré lui, mais on rit complètement avec lui.
Oui, complètement, et on voit bien du coup, avant que tu conclues, on voit bien que là, dans tous les films qu'on a cités, en fait, ça foisonne vraiment, cette collection Angoisse, elle foisonne de partout. Là, on parle d'une comédie avec Burton. Avant, on a parlé d'un truc à la Zodiac. Ensuite, il y a un Wooden It. Et vraiment, en fait, il y a tellement de tout. Alors, il y a à boire et à manger. Hein, sur les 24 films qu'on s'est mis, il y en a un ou deux. One Dark Night, moi, par exemple, je ne l'ai pas aimé, mais toi, tu as adoré. Mais bon, en tout cas, il y a à boire et à manger. Et c'est vraiment régressif et génial, je trouve, comme collection.
Absolument. On mettra peut-être dans les descriptifs de l'épisode quelques mentions spéciales de d'autres films qu'on a beaucoup aimés. Voilà, c'est la fin de Popcorn et Banjo, la troisième. Remerciements évidemment à toi, Charles, pour avoir co-animé cette émission avec moi. Remerciements à Rimini Édition et remerciements à la réalisation de cette émission à Kumba Falquast. Popcorn et Banjo, la troisième, c'est terminé. On se retrouve pour la quatrième le mois prochain. Salut à tous.
Salut, salut.
Ho, ho, ho. Merry Christmas.
J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti.
Allô?
Tu veux jouer avec moi?
Je te dévorerai le cœur.
Ça m'étonnerait.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.